Ce 10-10 vous est proposé par le musée Parcelles 473 à Malbosque, sur les hauteurs de Montpellier. Plongez-vous dans une expérience inédite au cœur d'un lieu unique et vivant où l'art urbain se crée, se transforme et se transmet. Exposition, ateliers, rencontres avec les artistes, librairies. Vous avez rendez-vous au musée Parcelles 473 avec le street art, l'art contemporain, en un mot, l'art pour tous.
Bienvenue dans ce 10-10, ce premier 10-10 de la semaine, où j'ai le plaisir de recevoir Jean-Luc Wolf et Joseph Mornay, qui sont tous les deux les coprésidents d'un think tank qui s'appelle Montpellier 2050. Bonjour messieurs, c'est quoi un think tank et pourquoi 2050 ?
Alors, un think tank, parce que au départ, ça nous a paru peut-être un petit peu original. On a voulu marquer le coup par rapport à des structures plus ou moins existantes à ce moment-là. Mais en fait, c'est en français un laboratoire d'idées ou un cercle de pensée, comme l'on veut. Pourquoi 2050 ? Bien parce que en 2020, on s'est rendu compte que notre ancien nom d'origine, qui était Montpellier 2020, eh bien, était devenu un peu naturellement obsolète. Voilà. Notre organisme.
Mais vous avez dit au début, ça veut dire que au début, ça existait avant.
Ça existait, exactement. Ça existe depuis 2012, à un moment où un groupe de 7 ou 8 personnes se sont interrogées pour savoir comment allait évoluer la municipalité de Montpellier que pour la plupart d'entre nous, nous soutenions, disons.
2012, c'était Hélène Mandeau qui était maire.
C'est ça, voilà. Et les perspectives qui s'offraient à nous étaient quand même particulièrement, nous mettaient dans une certaine hésitation. Et on s'est dit, plutôt que de choisir un candidat, construisons en quelque sorte un programme, c'est-à-dire établissons une sorte de projection sur comment voyez-vous Montpellier en 2020. Et le terme, c'était ça. Montpellier 2020, c'était tout simplement
un projet de mandature.
Un projet de mandature.
Des idées pour une mandature, plutôt.
Des idées pour une mandature que nous voulions proposer à l'ensemble des candidats. Voilà. Et en 2021 ou 2022, on a pensé quand même que notre terme de 2020 était un peu dépassé, et on l'a appelé 2050, avec le point qui fait très moderne, très...
2050, parce que c'est aussi les objectifs un peu visés pour atteindre la neutralité carbone, c'est parce que, voilà, c'est... Ou c'était simplement un choix de simplicité, on va au demi-siècle.
Ou plutôt un choix de complication, à mon avis, c'est-à-dire qu'on existait à ce moment-là sur Montpellier, sous l'appellation Montpellier 2020, et je pense qu'on aurait pu complètement continuer avec cette espèce d'appellation symbolique, avec Montpellier 2020 qui était inscrite. Bon, mais on s'est dit, allez, on va aller vers l'avenir, et on va se donner un autre
horizon
dans le temps, et tant mieux si ça rejoint cet objectif bas carbone, et toutes
les
objectifs au niveau de la planète, c'est tout à fait très bien pour nous, et on soutient complètement ça.
Et alors donc, en 2014, vous donniez des idées pour un mandat. En 2020, j'imagine que vous avez fait un peu la même chose. On en reparlera, puisque vous avez publié une série d'ouvrages au fil du temps. Et là, si on se projette dès maintenant, vous êtes en situation d'apporter quelques idées aux candidats qui vont s'affronter au mois de mars pour la mairie de Montpellier. Oui.
Alors, une autre précision là par rapport à ce qu'a dit Jean-Luc, c'est que Montpellier 2050 maintenant est constitué de citoyens montpelliérains qui viennent d'origines professionnelles complètement différentes, et c'est ce qui fait une de nos richesses. C'est quand on se rencontre avec des origines professionnelles, des expertises, des expériences quand même qui sont tout à fait différentes. Ce qui nous réunit, c'est qu'on n'est pas une association partisane. Hein, on refuse d'être au service ou à la défense d'un parti, ce qui n'empêche pas chacun d'entre nous ensuite de faire ses choix, hein, mais nous en tant que tels, donc par exemple par rapport au municipal qui se présente, on reste dans cette espèce de neutralité, hein, où on va donner des indications,
des idées.
On va donner des idées, on va donner éventuellement des jugements, si tout d'un coup on pense, entre autres par rapport au deuxième tour, hein, s'il y a quand même des choix de société qu'on ne partage pas, on peut le faire savoir. Hein, mais pour le moment, on est dans cette espèce de neutralité. Donc des citoyens comme ça, non partisans, qui se rejoignent entre eux à partir d'horizons professionnels différents, portés tous par un intérêt qui est comment être citoyen dans notre ville, dans notre territoire, et avoir une parole de citoyen qui n'est pas automatiquement une parole politique partisane. Quoi, c'est un pari quand même qui était très important à tenir.
Je dois rajouter qu'effectivement, beaucoup de candidats, surtout en 2014, en 2020 également, nous ont interrogés. Où nous ont questionné sur, tout simplement, expliquez-nous telle perspective que vous tracez dans votre plateforme programmatique, en quelque sorte.
Et justement, en quelques mots, là, bon, quelles sont un peu les idées fortes que vous voudriez voir se déployer dans le prochain mandat, quel que soit l'élu à la ville et les élus à la métropole qui seront présents?
Si on a été pendant très longtemps plutôt, on va dire, sociologue, ou traceurs de perspectives en termes de villes adoucies, par exemple, avec de l'informatique plus facilement à la disposition des gens, etc., on doit reconnaître qu'on a été un peu rattrapé par la grande problématique de la planète aujourd'hui, qui est sa sauvegarde, et depuis quelques années, on est beaucoup plus défense, justement, des dégâts créés par les...
D'une planète soutenable, d'un territoire soutenable.
Absolument, absolument. Et quelques membres qui nous ont rejoints ont contribué justement à façonner chez nous un état d'esprit qui est justement plus orienté défense de la planète. Et par exemple, nous allons publier très prochainement un document qui, j'espère, sera utilisé par l'ensemble des communes constituant la métropole sur le PCAET, qui est le plan climat, air, énergie, territoire, et que nous avons analysé. C'est un travail relativement important. Peut-être, Joseph, peux-tu compléter là-dessus.
Oui, parce que pour nous, Montpellier ne peut pas se résumer à Montpellier. On n'est pas uniquement sur la ville, on est sur le territoire autour de la ville, et ce territoire qui n'est pas uniquement la métropole actuelle. Et d'ailleurs, parmi nos membres, on a plusieurs qui viennent de communes qui ne sont pas actuellement dans le territoire métropolitain strictement. Pour nous, c'est très très important d'essayer de faire des propositions, c'est ce qu'il y aura entre autres dans ce travail sur le PCAET, faire des propositions pour que ce grand territoire puisse s'organiser bien au-delà de la métropole, et dans une dynamique qu'on pourrait dire non pas centripète, mais centrifuge, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas une espèce de ville un peu impérialiste comme ça qui ruisselle sur des territoires autour, mais au contraire que ce soit tout un ensemble qui participe à cette espèce de construction d'un territoire beaucoup plus élargi, parce que les enjeux justement planétaires, mais comme les enjeux économiques aussi, hein, nécessitent actuellement cette collaboration.
Donc, pour vous, le territoire, c'est un peu le territoire qui va de l'Odève d'un côté à Lunel de l'autre, à Sète, et au nord du Pic-Saint-Loup.
Quelque chose comme ça, oui, quelque chose comme ça. On ne s'interdit rien dans cette espèce de grand élargissement, quoi. Hein.
Et au-delà de notre propre orientation, on a été aussi influencé par des partenaires qui ont par exemple participé à notre colloque sur... Le plan de développement de la planète qui a été présenté à la salle Rabelais il y a un an et demi maintenant, que ce soit l'Académie des sciences, que ce soit les universités, et qui nous encourage justement dans ce sens. Voilà.
Donc un grand territoire parce que, bah, effectivement, il y a de la solidarité, mais il y a surtout beaucoup de mouvements de personnes dans une métropole et une ville qui continue à avoir une attractivité démographique très forte. On ne se loge pas qu'à Montpellier, on se déplace et donc ça va très loin. C'est tout ça qu'il faut regarder.
Entre autres, oui, déplacement, logement, ça fait partie des choses aussi qui sont essentielles. Pour rappel quand même, hein, c'est vrai qu'on a publié de manière continuelle à peu près des ouvrages autour de ces 13-14 années d'existence. Et notre premier ouvrage, c'était sur les propositions, comme le rappelait Jean-Luc, au niveau des échéances municipales de l'époque. Mais le deuxième, ça a été sur la gouvernance. C'est-à-dire qu'on a aussi exprimé des choix au niveau d'une gouvernance. Une gouvernance, justement, qui aille dans cette espèce de
collaboration, de coopération.
Collaboration, de coopération, voire aussi quelquefois de mutualisation au niveau des... Parce qu'il y a certainement des choses à mutualiser. Dans notre dernier sursaut qu'on avait fait il y a 6 ans pour les municipales, hein, il y a tout un chapitre qui est là-dessus, sur la mutualisation possible, au niveau, entre autres, du public, du privé.
Je serais plus sévère que toi en disant également qu'il a pu y avoir des corrections que nous proposions parce qu'effectivement, un certain nombre de modes de gouvernance ne nous convenaient pas.
Et donc, vous observez sur les presque 15 années d'existence de Montpellier 2020, devenue de Montpellier 2050, vous observez une évolution quand même dans cette gouvernance. Puisqu'on le sait bien, au-delà des habitants, c'est quand même des élus qui sont aux commandes de la ville, de la métropole et des différentes intercommunalités.
Je crois qu'on peut dire tout à fait, oui, on est d'accord en tout cas sur les orientations. Je ne citerai que la question de la laïcité par exemple, qui nous convient parfaitement, les orientations pour l'adaptation de la ville, par exemple, au changement climatique, tout ça va dans le sens des travaux que nous avons déjà fournis.
Vous parlez de travaux fournis, donc j'entends que vous avez publié une série d'ouvrages, je crois que vous publiez aussi également une lettre mensuelle, donc elle doit avoir déjà, elle aussi, un certain nombre de numéros publiés, et quels ouvrages avez-vous publiés assez globalement?
Mais cette lettre mensuelle, donc c'est une lettre numérique qui peut être distribuée à toute personne qui a envie d'envoyer son mail et qui peut être destinataire. Alors cette lettre de sursaut, c'est comme ça qu'on l'appelle, je crois qu'on arrive au 156e numéro, hein, ce qui veut dire
belle constance. Mensuel,
ça fait une belle constance. Hein. Elle élargit son propos au-delà des seuls propos montpelliérain, montpelliérôme, montpelliérain. Hein, d'ailleurs, quelquefois, il y en a qui nous le reprochaient d'être un petit peu trop ouvert. Mais on y tient parce que notre réflexion, c'est un laboratoire d'idées, hein, donc on ne peut pas se contenter uniquement des réflexions sur les petits problèmes qu'on rencontre à Montpellier dans sa région, si on ne les met pas à la dimension et aux perspectives des enjeux nationaux et internationaux, qui eux-mêmes ensuite nous permettent d'éclairer notre territoire.
On dirait aujourd'hui une approche systémique?
On pourrait dire oui, mais ce terme est tellement un peu auberge espagnole qu'on ne sait pas exactement ce que chacun y met.
À propos de cette...
On y aborde donc généralement l'éditorial qui est fait, est un éditorial qui reflète aussi les échanges qu'on peut avoir entre nous. Parce que pendant le mois, on communique beaucoup les uns avec les autres, entre autres par mail ou par réunion. Et souvent, puisque c'est moi qui en suis le rédacteur, je peux le dire, c'est un peu nos discussions qui orientent un petit peu le thème que je vais choisir au niveau de l'éditorial. On accorde beaucoup d'importance, comme le soulignait Jean-Luc, aussi depuis quelques années aux enjeux climatiques, entre autres grâce à une de nos membres, comme ça, Dominique Martin-Ferrari, qui est très engagée dans la question. Et on accorde aussi une importance grande à la culture. C'est-à-dire, on essaye de donner un espèce d'éclairage, hein, sur la culture au niveau local, entre autres au niveau des expositions ou autres. C'est quand même trois piliers quand même qui sont intéressants, quoi, hein.
Je ne voudrais pas dire que cette lettre est remarquable, mais très objectivement, nous avons la chance d'avoir, en la personne de Joseph, ici présent, donc un rédacteur qui a une aisance, une pertinence et je dirais même un talent littéraire
un pour style.
Présenter un style, effectivement, pour présenter cette lettre qui nous aide beaucoup. Et incontestablement, elle n'aurait pas sa qualité et peut-être même sa permanence si nous n'avions pas un rédacteur comme lui. Voilà.
Oui, je te remercie du compliment. Mais en plus, cette lettre est distribuée bien au-delà de Montpellier, du département et de la région. C'est-à-dire le liste, et c'est vraiment au niveau national. Et donc, j'ai beaucoup de retours comme ça au niveau national.
Justement, Montpellier 2050, un laboratoire d'idées qui est montpelliérain au sens du grand territoire, mais il existe en France d'autres think tanks. Il n'y a jamais eu l'envie un peu de réseauter un peu tout ce monde-là?
Non seulement il y a eu des envies, mais il y a eu des concrétisations de ces envies, puisque au moment où le débat s'est posé concernant la réunification de la grande région, de la création de la région Occitanie, eh bien, nous avons été associés à deux think tanks de Toulouse et de Nîmes, et nous avons travaillé conjointement sur ce projet. Et nous avions organisé des journées à Gaillargues d'abord avec les Nîmois, puis à Narbonne pour créer deux années de suite les journées de Narbonne, et nous avons transmis le relais ensuite à la communauté d'agglos de Narbonne qui a suivi ou qui a moins suivi ensuite, mais nous avons travaillé effectivement avec des think tanks de grandes cités voisines.
Et au niveau national, pas de d'ambition. Je sais pas, il y a un certain nombre de think tanks nationaux qui réfléchissent, de droite, de gauche, du milieu.
Mais on a quand même une conscience aiguë et lucide de nos moyens. C'est-à-dire qu'on fait aussi avec nos moyens, c'est-à-dire ceux de nos membres et ceux du résultat de l'équipe qu'on forme entre ces membres-là. Au départ, quand Montpellier 2020 s'est créé, c'est vrai qu'il y avait une double orientation possible. Il y avait celle de faire un grand truc, une grande machine, un peu sur un modèle de militance politique, soit au contraire de faire quelque chose qui est plus minoritaire, ces activités, enfin ces minorités agissantes, comme on disait à l'époque. Et c'est vrai qu'on s'est très vite aperçu que, vu ce qu'on était, c'était ça qui pouvait le mieux correspondre à nous. C'est-à-dire cette espèce de minorité agissante avec des gens, avec des expertises différentes.
Oui, vous avec dites encore une fois des profils divers.
Voilà, des profils divers. Et on sait qu'on ne peut jamais rivaliser avec des Jean Jaurès, avec des choses comme ça, parce qu'on n'en a pas les moyens nous-mêmes. Donc je crois que c'est très très important d'avoir une grande conscience de ses capacités, mais aussi de ses limites, quoi.
La plupart de nos membres sont d'ailleurs engagés dans un certain nombre d'autres mouvements à côté ou d'autres activités qui les occupent beaucoup. Certains d'entre nous sont effectivement retraités de tel ou tel...
Oui, j'allais vous poser la question. Est-ce qu'il y a des jeunes dans ces mouvements?
Il y a des jeunes, moins que nous le voudrions. Il y a des femmes, moins que nous le voudrions également. Mais nous tâchons effectivement de nous ouvrir de plus en plus. Mais pour reprendre ce que disait Joseph, effectivement, nous ne limitons pas nos ambitions, mais nous avons conscience que nous manquerions de moyens par rapport à d'autres projets qui nous écarteraient de notre centre montpelliérain.
Je vous propose quelques notes de musique et on revient ensuite sur un certain nombre de vos préoccupations d'aujourd'hui.
Thank you.
10h31 dans ce 10-10. Nous sommes avec Joseph Mornay et Jean-Luc Wolf, les coprésidents du think tank Montpellier 2050. On a vu que c'était un laboratoire d'idées qui réunissait des gens d'horizons divers, avec des compétences multiples, et donc qui réfléchissaient à la fois à ce qui se passe sur le territoire métropolitain, mais aussi plus largement sur le grand territoire. Une problématique que vous travaillez depuis quelque temps et que vous allez porter à la connaissance du public, Jean-Luc Wolf, c'est celle, au fond, aujourd'hui, des risques naturels et de leur impact sur le monde assurantiel. C'est pas un sujet évident immédiatement, mais c'est un sujet très important de votre
point de vue. C'est un sujet surtout très préoccupant. Je rappelle rapidement que actuellement, la France est un pays particulièrement protégé, que l'idée de solidarité et de mutualisation, de redistribution, est le fondement même, finalement, de notre lien social, s'exerce aussi dans le monde de la protection des biens, puisque depuis 1982, après Vaison-la-Romaine, sous le gouvernement Mitterrand, s'est créé le fonds catastrophe naturelle qui oblige tous les assurés en dommages, en auto, pour leur maison, pour leurs entreprises, à cotiser à une petite partie de la prime pour être, comment dirais-je, indemnisé.
Donc chacun d'entre nous contribue à ce fonds.
Absolument. Sauf que, au début, ça ne posait pas de problème. Les cotisations étaient beaucoup plus importantes que les débours, si je puis dire. Mais depuis quelques années, les assureurs, et surtout leurs propres assureurs à eux, les réassureurs, s'inquiètent et refusent de plus en plus un certain nombre de régions, un certain nombre de types de risques. Et comme
ça veut dire que ça va jusqu'à ce que des communes ne puissent plus s'assurer. J'ai entendu ça, en tout cas.
Aujourd'hui, plus de 20% des communes françaises sont sans assurance. Et même celles qui sont assurées, eh bien, seraient bien incapables de réparer la totalité des dégâts, comme on vient de le voir à Valence et comme en Espagne, après le sinistre d'il y a un an et demi.
Comme on l'a vu dans le Nord, il y a peu de mois.
Comme on le voit à Mayotte, à La Réunion, etc. Enfin bon, bref, si des catastrophes comme celle-là continuent à se dérouler, et il n'y a aucune raison, au contraire, qu'on ne s'inquiète pas quant à ce rythme, eh bien, on se demande comment on va pouvoir être indemnisé. Je voudrais simplement rappeler, par exemple, que pour les fameuses boues qui se rétractent et qui...
Ah, c'est les phénomènes argileux. Enfin, c'est
absolument, les argiles qui rétractables, qui parfois se...
déstabilisent les maisons.
Absolument. Il y a peut-être une dizaine de millions de maisons en France concernées et qu'on se demande comment tous ces risques-là vont demain être indemnisés. Bien entendu, il y aura de la prévention. Bien entendu, il y aura des nouvelles techniques de construction. Il y aura de la législation qui imposera des types de construction, des lieux de construction, des interdictions en fonction des codes, par exemple, etc., etc. Mais qui va payer ? On connaît les problèmes de dette de l'ensemble des collectivités locales et de l'État. Je rappelle qu'aujourd'hui, l'État est derrière ce fonds CatNat et qu'il y a une garantie complémentaire qui nous permet de penser aujourd'hui que même si nos assureurs, nos réassureurs et le fonds CatNat étaient en difficulté, il y aurait une intervention de l'État. Si demain Montpellier avait été victime de ce qui s'est passé à Valence, par exemple, alors que les lignes de tramway ne sont pas payées, alors qu'il y a des travaux en cours, qui aurait payé ?
Et d'ailleurs, petit point d'alerte, ou plutôt d'information, il y a eu effectivement ces dernières semaines, pendant les vacances de Noël, un épisode méditerranéen qui a entraîné la crue du Lez, et on a vu des images à la télévision, mais depuis 10, 15, 20 ans, les collectivités ont fait des travaux qui ont permis que cet épisode soit au fond contenu. Il n'y a pas eu de victimes d'une part et il n'y a pas eu de dégâts massifs. Donc on peut dire quand même que l'aspect prévention va être extrêmement privilégié dans les temps qui viennent et que effectivement peut-être de nouvelles contraintes ou de nouvelles ressources seront affectées à tout ça.
Ah mais de toute façon, le terme prévention, c'est le terme préféré des assureurs aujourd'hui et ils n'accepteront de s'engager que s'ils ont la certitude qu'une prévention sûre leur permet effectivement...
Alors, on voit l'importance de ce sujet, hein, on voit l'intérêt que vous y mettez, et vous préparez dans les mois qui viennent un séminaire, un colloque, une conférence sur ce sujet.
La date n'est pas encore complètement arrêtée, parce que nous dépendons aussi d'un certain nombre de partenaires, préfecture, qui s'est engagé à nous soutenir, la métropole de Montpellier et des compagnies d'assurance, bien entendu, ainsi que des préventionnistes. Donc je pense que ce colloque se déroulera vraisemblablement fin mai, début juin, et nous allons l'annoncer très prochainement.
Oui, d'ailleurs, il faut souligner comment, dès que l'idée a commencé à germer, et entre autres que Jean-Luc en a été porteur, tout de suite... Il y a beaucoup de collectivités ou d'institutions qui à ce moment-là se sont mises tout de suite. Nous, ça nous intéresse beaucoup, hein, entre autres la préfecture de l'Hérault, entre autres aussi la municipalité.
Bien sûr.
Et puis aussi au niveau des professionnels de compagnies d'assurance que toi, par ton métier, tu as eu nous a donné la possibilité de contacter, quoi.
Tout à fait.
J'en reviens à d'autres, à des manifestations plus régulières, plus peut-être modestes, c'est pas vraiment le bon terme, mais vous organisez depuis là aussi des années des controverses, c'est-à-dire mettre au débat public, si je puis dire, un certain nombre de thématiques qui vous ont semblé importantes.
C'est-à-dire que c'est une de nos caractéristiques de notre laboratoire d'idées, c'est qu'on n'est pas uniquement des gens qui se réunissent pour parler entre eux et réfléchir entre eux. On a tout de suite voulu avoir des actions qui sont portées vers l'extérieur. Parmi ces actions, on a déjà vu deux, qui étaient d'une part les ouvrages qu'on fait régulièrement, la lettre mensuelle, les lettres de sursaut, et l'autre, c'est ce qu'on appelle les controverses, c'est-à-dire proposer de manière régulière, à peu près, disons, deux fois par trimestre sur Montpellier.
Au Gazette Café.
Au Gazette Café actuellement. Des débats publics sur des thèmes précis avec des gens, des invités qui sont porteurs vraiment et qualifiés pour en parler. Pour mémoire, le premier que nous avons invité, c'était Stéphane Hessel. Hein, et Stéphane Hessel, on a eu la chance en plus de l'avoir peu de temps avant sa mort, parce que malheureusement, il a disparu assez rapidement à ce moment-là.
Indignons-nous.
Mais c'était, voilà. Et on a fait à ce moment-là une affluence record. Pendant longtemps, on a eu la chance aussi d'avoir parmi nous quelqu'un qui a beaucoup compté dans notre identité, dans notre travail, qui s'appelait Claude Nagevander. Hein, quelqu'un qui a un passé quand même assez extraordinaire au niveau de ses engagements et puis aussi au niveau de sa profession, puisqu'il a été patron de Libre, patron de la FNAC, entre autres, et qui avait un carnet d'adresses, comme on dit, qui était très très important et qui nous a permis comme ça de faire venir plein de gens, plein de grandes pointures, hein, au niveau national, que ce soit au niveau des médias, au niveau universitaire ou autre.
Et aujourd'hui,
quelques temps, oui, on se replie un petit peu sur les personnalités locales, parce qu'on a aussi une espèce de richesse d'un vivier local. Hein, la dernière controverse qu'on a fait juste avant Noël, on avait invité Emmanuel Négrier, à la fois l'universitaire et le politologue, qui est quand même connu par beaucoup de monde là, sur la culture. Hein, la culture face aux enjeux politiques actuellement. Et le 23 janvier, nous allons inviter à nouveau Jean-Michel Rodriguez, qui est un expert en intelligence artificielle, un chercheur expert en intelligence artificielle, que nous avions déjà invité au cours de l'an dernier et qui avait eu tellement de demandes qu'il soit invité qu'il a accepté, nous l'avons invité à nouveau, et qui va nous parler le 23 janvier sur les biais de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire comment l'intelligence artificielle, même, on peut se demander si elle ne peut pas nous mentir et si elle n'est pas obligée de nous mentir. Parce que l'intelligence artificielle est alimentée par des humains. Les humains, par définition, ils ont leurs limites. Et donc, c'est ces biais-là qui s'introduisent dans un savoir qui se voudrait absolu, neutre et objectif, alors qu'il ne l'est pas du tout.
C'est un fantasme, ça, oui. Parce qu'aujourd'hui, les intelligences artificielles contribuent à façonner nos imaginaires nos façons de penser.
Donc, c'est des soirées qui se passent à 18h au Gazette Café. L'accès est libre, hein, c'est gratuit.
Dans un nombre de places limitées aux Gazettes Café, c'est pas très grand.
Dans un nombre de places limitées, mais maintenant, justement, suite à un moment, l'afflux qu'on a eu, qui posait encore des problèmes d'assurance, hein, il y a possibilité aux Gazettes Café de doubler pratiquement la capacité d'accueil de la salle. Donc, normalement, il n'y a pas de problème pour accueillir davantage de monde qu'à une époque. Ouais.
Oui, on a fait nos premières controverses à la salle Pétrarque. La première même avec Stéphane Hessel, c'était à la maison à l'époque
des
syndicats.
Voilà.
Salle Peloutier.
Et là, nous avions 400 ou 500 personnes. On avait été un peu débordés. Oui. Et l'amitié qui le liait à Claude Neuschwander, notre cher président, malheureusement, qui nous a quittés aujourd'hui, avait été effectivement, entre autres, responsable de cette influence. Depuis, nous avons eu, donc, salle Pétrarque, des controverses en nombre très important. Une sur la culture, entre autres, avec Jean-Claude Carrière et René Kering, où nous avions eu plus de 200 personnes. Nous avons des fréquentations un tout petit peu plus modestes au Gazette Café, mais justement, nous avons été très échaudés par la dernière venue de... la première et dernière venue jusqu'à présent de Jean-Michel Rodriguez sur l'intelligence artificielle, où nous avions refusé beaucoup trop de monde. Oui. Et nous étions déjà beaucoup trop nombreux à l'intérieur. Donc là, on va ouvrir une deuxième salle à côté qui permettra effectivement à tous les amateurs de nous écouter.
Donc ça, c'est un rendez-vous le 23 janvier à 18h30, c'est ça ?
18h,
oui, pardon, au Gazette Café. Et donc ce thème qui, est, pour le coup, est un thème totalement global. L'intelligence artificielle, elle se déploie tout partout dans le monde et pas simplement à Montpellier ou dans sa métropole. Vous pensez que c'est un sujet qui va véritablement impacter nos modes de vivre dans les années qui viennent ? Peut-être que l'actualité, d'ailleurs, récente, nous en donne des exemples.
Elle nous impacte déjà complètement. Hein, là-dessus, on n'a pas le moindre doute. Et le nombre de manifestations qui nous inquiétaient un petit peu sur le thème de l'intelligence artificielle ne diminue pas, justement, les affluences et les intérêts que nous prodiguons à partir de ça.
On peut dire qu'il y a trois axes là qui sont très importants actuellement pour nous. Il y a la planète, on l'a dit, l'intelligence artificielle, c'est-à-dire tout ce monde numérique, et puis aussi les problèmes de gouvernance. La gouvernance.
Quelques secondes qui nous restent pour vous dire, on vous rejoint comment ? J'ai un mail là que je peux peut-être communiquer.
Voilà, il y a ce mail qui peut être communiqué.
Mentor.jch, mentor, mentor.jch, @gmail.com. C'est par là qu'on peut vous contacter.
Voilà. Il y a donc le 23 janvier, on peut nous trouver au Gazette Café. Et puis aussi, on aura une assemblée générale bientôt, parce qu'on fonctionne en association. Et là, à ce moment-là, à l'assemblée générale, tous ceux qui veulent y venir, à ce moment-là, par cette adresse mail, ils peuvent de faire leur demande.
Merci Jean-Luc Wolff, merci Joseph Mornay d'être venu présenter ce think tank, ce laboratoire d'idées Montpellier 2050, qui on le voit réfléchit à Montpellier, autour de Montpellier, mais aussi pense l'avenir de la planète sur notre territoire. Ce 10-10 se referme, aujourd'hui c'était Yann qui était à la technique, demain un autre invité, une autre animation, peut-être un autre technicien. Bonne journée.
Radio FM Plus.
Ce 10-10 vous était proposé par le musée Parcelle 473 à Malbosque, sur les hauteurs de Montpellier. Exposition, ateliers, rencontres avec les artistes, vous avez rendez-vous au musée Parcelle 473 avec le street art, l'art contemporain, en un mot, l'art pour tous.